Bien le bonsoir tout le monde, c'est mardi. Bien oui, le moment de vous retrouver aux amateurs de sport et que ça en est passé des choses au cours des trois derniers jours, particulièrement sur la scène du hockey. Trois matchs numéro 7 au cours des deux prochaines soirées. Deux ce soir, évidemment, on va en discuter. On va discuter de tout ce qui a mené à ça. Des équipes sont déjà en vacances. Des équipes dont on disait qu'elles allaient éventuellement gagner la Coupe Stanley. Beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et c'est quand même amusant. Je le dis pas en jugeant parce que c'est ça le jeu aussi, puis c'est le fun de le faire. Je trouve ça amusant de voir à quel point on tire des conclusions rapides sur un joueur ou sur une équipe pour dire que finalement, eux, ils font mieux que nous, ou c'est tellement mieux, ou c'est tellement moins bon. Un joueur a un gros match, par exemple, et puis là, bon, ben, c'était une gaffe de... Et c'est pour ça que j'ai pas attendu, par exemple, pour ceux qui vont ou qui parlent de Radulov depuis 24 heures, parce que il a effectué une superbe passe gagnante sur le but de Klingberg hier. L'an passé, quand Dallas a raté les séries, là, j'en parlais pareil. J'ai pas attendu qu'il fasse une passe gagnante pour dire que c'était probablement la décision prise par Marc Bergevin qui avait affecté le plus l'avenir immédiat de l'équipe par la suite. Et je pense qu'on est encore dans les conséquences de cette décision-là, d'avoir tenu tête à son agent, de s'être braqué, puis de dire « non, je lui donnerai pas plus que ça ». Mais c'est ça, on y a pas donné plus. Alors, comptons nos billets et regardons les séries éliminatoires bien tranquillement devant nos téléviseurs. Mais du bon hockey, dans la plupart des cas, j'ai pas été très emballé par la prolongation entre Vegas et San Jose l'autre soir, bien que ça s'est terminé de façon spectaculaire. San Jose, une équipe qui avait de la misère à générer quelque attaque que ce soit. On va en discuter, bien sûr, dans quelques instants. Parmi nos invités ce soir, Jean-Jacques Desgnaux, qui va nous parler du gardien des Blues de Saint-Louis qu'il a connu dans la Ligue américaine avec San Antonio. Et on va prendre de ses nouvelles également de ce qui s'est passé dans cette fin de saison-là. François Gagnon sera avec nous également. Anthony Manta de l'organisation des Red Wings réagit à la nomination de Steve Yzerman. Va y aller d'une prédiction pour la suite des séries. On va revenir sur le match très difficile à regarder de l'Impact samedi également plus tard à l'émission. Philippe Quentin sera là. Une bonne discussion sans aucun doute avec lui. Mais d'abord, accueillons Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Danny, as-tu tiré une conclusion, toi, même si la première ronde n'est pas terminée, sur ce que ça prend pour avoir du succès, ou c'est plus mêlant que d'autres choses actuellement, ce qu'on voit dans les séries?
Ben, ce qu'on voit dans les séries, c'est que la parité dans la Ligue nationale existe de plus en plus, que maintenant la période de transaction devient de plus en plus importante parce que une transaction, si elle est bien ciblée, peut vraiment faire basculer ton équipe, passer d'une équipe moyenne à une bonne équipe. Mm-hmm. Parce que la profondeur des organisations maintenant est moins grande qu'avant. Je m'explique, c'est que t'as moins de joueurs qui arrivent des rangs mineurs, t'as moins de joueurs surprises, t'as moins de joueurs qui arrivent de nulle part, qui deviennent des joueurs de série d'après-saison, comme ça a déjà été le cas par le passé. Pourquoi? Parce que...
Sauf Jordan Binnington, qui a joué ses près de 200 matchs dans les... Ben, tu sais, il y en a des exceptions. C'est plus des joueurs de rôle.
C'est ça. On peut pas tirer une conclusion un parce qu'il y a des exceptions. Mais on regarde, par contre, lui est arrivé puis est venu amener une dimension. Avec son arrivée, il a amené une dimension qui manquait aux Blues de Saint-Louis.
Ça ressemble à Corey Crawford, en tout cas, son cheminement, lui-là. Là.
Oui. Et ça nous dit que... les gardiens de but, des fois, le processus est plus long, puis c'est des rôles plus importants. Les processus qui sont probablement identiques aux défenseurs, aux joueurs de centre, des joueurs qui arrivent tardivement dans la Ligue nationale, certains ailiers aussi, mais pour d'autres raisons, parce que le jeu du jumelage est plus important, avec qui tu vas jouer. Moi, je pense aussi qu'on voit les équipes qui ont des bons joueurs de centre sortir des séries, avancer dans les séries. Tu sais, je vais parler, on peut faire le tour si tu veux, là, mais rapidement, tu sais, moi, je t'ai parlé la semaine dernière de Stamkos au centre. Je pense que le Lightning va être obligé de réévaluer ça.
Oui.
De réévaluer cette situation-là.
Et je pense que Cooper l'a fait pour acheter la paix, moi.
Oui, d'une certaine façon. Et je regarde ce qui se passe avec les Leafs de Toronto. Honnêtement, l'absence de Kadri ce soir, ça va faire mal.
C'est sûr.
C'est match numéro 7.
Match important, c'est la route, il y a du courage.
Profondeur. Ben oui, puis ta profondeur est importante quand tu arrives à l'étranger. Moi, tu sais, je pense que les équipes qui ont moins de profondeur dans un département que dans l'autre, lorsque il y a des blessures qui arrivent ou des contre-performances ou la combinaison des deux, c'est très difficile. Les blessures, Tampa Bay, entre autres, à la défense, je pense que ça va leur faire réévaluer leur façon de travailler. Et probablement la même chose pour... moi, je pense que les Bruins vont gagner à cause de ça, à cause de leur profondeur à la défense, de leur...
Les Bruins ce soir, donc, tu te mouilles, Danny.
Oui, absolument. Je pense, oui, que les Bruins ont une équipe qui est mieux... bâti pour un match numéro 7 qui est mieux. Et en plus, ils ont le dernier changement ce soir. Là. Moi, je pense que les Leafs ont raté leur opportunité au dernier match. Ça va être beaucoup plus difficile pour eux de gagner ouais. À l'étranger. Même si c'est une bonne équipe. En fait, la clé, ça va être de faire jouer les Leafs dans leur zone. Tu sais, pour les Bruins, là, c'est amène les Bruins dans les Leafs, pardon, dans leur zone, fais jouer les Leafs là où ils sont le plus vulnérables, c'est-à-dire dans leur territoire.
Il y a beaucoup de théories qui deviennent tout à coup tendance le temps que ça dure, le temps qu'une équipe paraît bien en série. On fait des comparaisons, des conclusions hâtives qui vont peut-être se concrétiser éventuellement, comme par exemple la théorie du all-in incarnée par les Blue Jackets de Columbus, mais ils n'ont traversé qu'une ronde. On verra la suite. S'ils gagnent la Coupe cette année, on pourra peut-être mieux mesurer tout ce que ça signifie qu'une philosophie all-in, si ça existe vraiment. Il y a en contrepartie une philosophie d'acquérir des joueurs autonomes les plus... courus. Puis John Tavares vient au top de la liste. C'est l'agent libre numéro un de la dernière saison des agents libres. Et fera-t-il la différence pendant que les Islanders, eux autres, se retrouvent en deuxième ronde sans John Tavares?
Oui, c'est ça. Mais en fait, tu sais, dans tout, il y a plusieurs éléments. Là, tu sais, ce que je voulais dire.
C'était étourdissant.
Ben, ouais. t'es trop vite. Là.
Excuse, Danny. Wow.
Hey, Mario. Non, mais sérieusement, là. Prends les Blue Jackets, là. On peut pas prendre cette situation-là comme une recette magique. Parce que les Blue Jackets, ils se sont retrouvés dans un cul-de-sac. Soit ils allaient all-in, comme tu dis, ou ils décevaient leurs partisans en disant « On est obligé de laisser partir ces gars-là, ils veulent pas jouer ici. »
Des circonstances uniques. La situation a provoqué l'all-in, bien plus qu'une décision.
Ben oui, absolument. Moi, je suis convaincu de ça. Si on pouvait prendre une bière avec ces dirigeants-là,
ben oui.
Puis ils s'ouvraient, c'est exactement ce qui est la direction qu'ils prendraient en disant, écoute, là, est-ce qu'on avait vraiment le choix?
Exact.
Est-ce qu'on pouvait laisser tomber la balle là?
Exact.
Il y a des équipes, c'est plus compréhensible. Je prends le Canadien parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est plus compréhensible que cette année, on laisse tomber la balle en disant, on va faire des petits ajustements mineurs, mais on fait pas le grand coup. Puis en même temps, je te dirais de l'autre côté, je regarde Dallas.
Oui.
Qui a intégré 2-3 joueurs dans son équipe, des jeunes joueurs. Puis tout à coup, avec l'arrivée de Zuccarello,
oui.
Où le message qu'on a envoyé en allant chercher Zuccarello, là, whoop, les joueurs ont dit, hey, les dirigeants pensent vraiment qu'on peut y aller. Ils croient en nous.
Hey, souviens-toi de la sortie du propriétaire, là, à peu près quoi, deux tiers, mi-chemin dans la saison.
Ils
ont ramassé publiquement. Là.
Ah oui, c'est je veux dire, là, aucun compromis, aucune retenue. Là. Bang, 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 tiens-toi. Puis à un moment donné, celui qui signe les chèques de paix, ultimement, il a le droit de ne pas être content. Là. Comme le partisan a le droit de ne pas être content.
Ben, j'espère.
C'est bien d'être conciliant, c'est bien de comprendre
oui.
la business, tu me prêtes l'expression. Mm-hmm. À un moment donné, tu sais, il faut appeler les choses comme elles le sont. Puis lui, il n'était vraiment pas content, puis il s'est manifesté. C'est sûr que c'est pas un marché comme Toronto ou Montréal, mais en même temps, tu sais, je pense qu'à un moment donné, si tu n'es pas satisfait de tes joueurs, puis c'est les joueurs en qui tu as confiance, puis tu penses qu'ils sont dans une zone de confort, qu'ils s'en sortiront pas s'il n'y a pas un traitement choc. Mais des fois, le traitement choc, c'est la sortie publique. C'est pas toujours ce qui est la meilleure des choses dans un marché aussi chaud que celui de Montréal ou dans les marchés canadiens. Mais des fois...
J'ai envie de rebondir là-dessus, Danny. J'ai pas d'idée préconçue, mais j'ai tendance à croire que c'est surfait que Montréal est un marché difficile. À part l'aspect bilinguisme de répondre dans les deux langues, je veux dire, c'est un public conciliant ici. Je veux dire, l'an passé, c'est une année de misère. Price a une attitude de schnout, puis il se fait ovationner à sa dernière sortie dans l'année. Cette année, ils font pas les séries, puis c'est le party au dernier match. Mais je veux dire, c'est pas un marché conciliant. Je me demande, c'est quoi un marché conciliant?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que les attentes sont très élevées quand même.
Oui, mais on s'ajuste aux résultats, visiblement.
Non, cette année, écoute, cette année, c'était une surprise parce que les attentes étaient... tellement au plancher. Mais là, le plancher de cette année, en fait, de la saison 2019-2020, il faut se souvenir que le plancher, c'est 96 points.
Penses-tu que de dire que Marc Bergevin, quand il nous dit en entrevue que ouais, c'est considérable, 96 points, mais de revenir possiblement avec la même équipe, c'est de continuer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attente envers l'équipe pour éviter toute pression?
Oh non, je pense pas.
Ben, en tout cas, il se met pas de la pression sur son équipe quand il dit ça, en tout cas.
Non, mais je pense que ce qu'il disait, c'est qu'il y a eu une progression et qu'il croit en ce qu'il y avait sous la main. Ça, c'est bien de le dire, peut-être plus pour les joueurs que pour les partisans. Mais dans la réalité, ce qui fait bouger les directeurs généraux, c'est de se comparer avec les autres dans cette division. Tu sais, ce qui va faire que le Canadien va regarder ça, va dire c'est Boston, c'est Toronto, c'est Floride qui vient de faire l'acquisition d'un nouvel entraîneur. Dans sa division, ça va être hyper compétitif. Steve Eiserman qui revient avec les Red Wings. Là, tout ça ça augmente le niveau de difficulté pour Marc Bergevin. Ça augmente par définition les attentes, puisque le plancher, ce qui est le plafond cette année, 96, l'an prochain, c'est le plancher. Même si on sait que c'est pas la réalité, là, tu n'es pas garanti que parce que tu as fait 96 points l'année d'avant que tu vas le refaire. Puis j'étais le premier à le dire.
C'est pas la première équipe qui rate les séries avec autant de points. Floride a fait la même affaire l'année d'avant. Exactement. Fait qu'on fera pas pitié avec ça. Là.
Non. Mais la réalité, c'est que tu as 96 points une année, tu peux tomber à 85 l'année suivante. Ben, tu prends l'exemple de la Floride, c'en est un, parce qu'on en a parlé ensemble. Puis c'est vrai, là.
Clairement. New Jersey, regarde, dans le passé, ils ont fait.
Il y en a plein, là.
T'as pas de garantie, c'est à recommencer presque
les
chaque
Rangers,
année.
Il y en a plein, là, qui ont eu des bonnes saisons, puis l'année d'après, c'est pout-pout, là. C'est la nouvelle réalité de cette ligue-là. Mais en même temps, tu regardes ce qui se passe en série, je te le dis, les jeunes joueurs entrent et jouent tout de suite.
Ouais.
Ils ont un impact immédiat. Là. Les jeunes joueurs arrivent. Là. Je regarde Makar qui arrive des collèges américains à Bac avec l'Avalanche. Let's go. Il joue au premier match. Il marque un défenseur en plus. C'est pas rien. Là. On va. Alors, ça, c'est une réalité. Je suis pas en train de dire le Canadien, est-ce qu'il y en a, il n'y en a pas. C'est leur problème. Peeling a joué. Il a joué un match qui n'était pas un match qui comptait, mais il a bien joué. Puis il a fait des choses vraiment qui m'ont inspiré dans le sens qu'il allait au filet, c'est un gros joueur, il long des rampes, il était efficace. Ça, il a fait un. Je pense que c'est un bon joueur de hockey. Je pense pas que c'est un joueur de 30 buts, là, mais c'est un bon joueur de hockey. Puis là, écoute, on verra bien, mais ça, je pense qu'ils ont fait l'acquisition d'un bon joueur. Mais là, une fois que tu as évalué tout ça, tu te dis qu'est-ce que ça va nous prendre, nous, le Canadien de Montréal, pour être aussi bon que Boston l'an prochain?
Si Tampa Bay se pose la même question après s'être fait sortir en 4 matchs, imagine-tu, toi, les questions qu'on se pose partout dans la Ligue, dont Montréal?
Ben oui. Et le fameux système, comme il est là, du format des séries éliminatoires, désavantage une équipe comme le Canadien. C'est les premières victimes d'une situation comme celle-là, parce qu'ils sont meilleurs que plusieurs équipes dans l'Ouest. Puis ça se peut que ce soit passé encore l'an prochain. Ça, c'est triste, mais c'est la réalité. Moi, c'est pour ça que je parlais de revoir la formule, essayer de... Mais bon, ça va être comme ça encore un bout, là. Mais moi, je pense que la Ligue a vraiment à s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait avec les bonnes équipes qui participent pas aux séries, puis qu'est-ce qu'on fait avec l'avantage de la glace. On a déjà liquidé ce dossier-là, mais je pense que c'est au cœur de ce qui doit préoccuper la Ligue nationale de hockey, parce qu'il y a une parité existante qui ne va que grandir.
Je pense pas qu'on ait une grosse chicane là-dessus si je te soumets que on l'a déjà abordé ou effleuré, que ça va prendre plus et sans rejeter le fait que les petits joueurs rapides, habiles, courageux, tough, amènent quelque chose, mais à un moment donné, ça va prendre des joueurs pour créer de l'espace. Combien de fois t'as vu des gars qui, juste avec une mise en échec, qui envoie pas l'autre gars les quatre fers en l'air, là, sur derrière, mais qui permet juste de récupérer une rondelle, de faire une passe qui va déclencher un jeu, une chance de marquer. Combien de joueurs sont capables de faire ça, d'une mise en échec dans un coin de patinoire chez le Canadien, récupérer une rondelle, l'envoyer dans l'enclave pour une passe qui peut être une passe gagnante. Pour vrai, là, il y en a combien qui sont capables de faire ça? Armia?
Non, même pas. C'est pas ça.
Même pas?
Là. Fait qu'il y en a pas. Il est bon pour protéger, garder la rondelle lorsqu'un joueur vient vers
lui. Oui.
Mais c'est sûr parce que, écoute, je vais te dire ça comme ça, le hockey d'aujourd'hui, autant demande de la vitesse, autant il demande de la combativité et de l'efficacité en espace restreint.
Tellement.
Tu sais, là, la grande glace devient la petite glace devient un coin de patinoire, tellement vite. Le devant du filet devient un champ de bataille, tellement vite. Alors, c'est sûr que moi, je crois pas beaucoup au physique pour le physique, là.
Ben non, j'en vois, on s'entend là-dessus, là, Daniel.
J'en vois des gros joueurs là, qui... tu sais, là.
Ben non.
Qui sont pas efficaces.
C'est pas
du
ça,
tout.
C'est pas ça.
Je regarde, moi, je pense que c'est le sens de la compétition. Je regarde, écoute, je regarde Brad Marchand depuis le début des séries. C'est pas un gros joueur, là.
Non, mais s'il y avait juste des gars pareils à lui physiquement autour, peut-être que ça serait plus difficile. T'es-tu d'accord?
Je te rejoins à 100%.
C'est juste ça, je veux dire. Puis oui, le talent.
Ben regarde, Coyle, ils sont allés chercher, c'est pour ça, là.
Exactement. Caroline, ils tiennent tête à Washington. C'est pas un club de manchots, là.
Non.
Physiquement, là.
Exactement. Puis c'est vraiment une guerre de tranchées, là. Puis c'est ce qu'on veut. On veut les défier physiquement à un contre un. Puis c'est juste pour que les gens... Parce que lorsqu'on parle comme ça, je veux pas que les gens aient la perception... ou la mauvaise perception, oui. En fait, je veux être sûr qu'ils comprennent bien ce que je veux dire.
Oui, vas-y.
Quand on parle d'espace restreint, tu sais, tu vois un jeu comme Doug Hamilton qui évite une mise en échec pour laisser Ovechkin passer en espérant lui soutirer la rondelle, et finalement, ça se transforme en but. Ça, là, lorsque tu es un entraîneur, ça te scie les jambes. Tu veux pas
c'est
voir.
C'est sûr.
Ça, c'est un manque. Ah, oui. De courage et le sens de la compétition n'est pas au rendez-vous. Ça, tu ne veux pas voir ça.
Non.
Mais des bagarres territoriales dans les coins de patinoire, quand je parle d'intensité, de bagarrer, c'est là où le pain et le beurre des bons joueurs est. C'est-à-dire que tu es capable d'être efficace là où tout le monde en arrache. Plus c'est difficile dans les coins de patinoire avec la rondelle, garder la rondelle. Écoute, je me souviens, Clément me parlait de protection de rondelle. La protection de rondelle, à quel point c'était important. Aujourd'hui, j'ai une discussion avec Joël Bouchard. Il me faisait référence aux mêmes choses qu'il enseignait chez les jeunes, les jeunes professionnels, ceux qui font leur ascension vers la Ligue nationale avec le Rocket. Il dit, écoute, tout se passe à l'intérieur de 5 pieds, 10 pieds carrés. C'est là. Alors, tous les joueurs doivent être... bagarreur, doit avoir le sens de la compétition, jamais abandonner et aussi être dynamique, être difficile à contrer. Mm-hmm. Puis ça, c'est plusieurs éléments. Puis évidemment, la force physique en fait partie de ces critères-là, mais c'est pas tout. C'est un ensemble de choses.
La scène que je décrivais tout à l'heure, le gars fait quelque chose avec la rondelle, il fait une passe en enclave, ça sous-entend que tu as des habiletés, tu es capable de créer de l'espace comme Jimmy Benn le fait, comme Radulov le fait. Tu as vu Séguin, qui n'est pas diminutif, mais tu as vu comment il profite de l'espace que ces gars-là créent, puis on le voit dans plein d'équipes. Dany, on va s'arrêter le temps d'un cours, de quelques courts messages.
Penses-tu que Toronto, juste comme ça, je te lance la question. Penses-tu que Toronto va s'ennuyer de Kadri ce soir?
La réponse, après la pause. En tout cas, j'ai hâte de voir comment certaines équipes qui vont faire un grand examen de conscience d'Annie vont voir quel genre de décision on va prendre, tant du côté de Nashville, Winnipeg, pour ne mentionner que celle-là. À Winnipeg, tu as 7 joueurs à des agents libres avec restriction, tu en as 8 sans... Le contraire, 7 sans restriction, 8 avec restriction. Tu t'imagines le boulot qui attend le Cheval Day Off pendant cet été. Donc, j'imagine qu'il risque d'y avoir des joueurs intéressants disponible d'équipes qui démissionnent sur leur noyau, comme le Canadien l'a fait au fil des ans avec des Subban et des Pacioretty, pour citer ça en exemple. D'autres équipes sont prêtes à passer à d'autres choses avec des joueurs de ce calibre-là ou semblables. Es-tu d'accord?
Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, il y a des choses aussi, il va y avoir l'effet domino, dans le sens que tu as des joueurs qui vont être renouvelés, vont permettre à d'autres de rester, parce qu'il y a une combinaison importante entre certains joueurs.
Oui.
Et l'inverse est aussi vrai. Moi, je pense que la fin de Pacioretty, ça a commencé avec le départ de Radulov.
Clairement. C'est ça qui lui a donné à Baboune. Il n'y revenait pas, lui.
Ben, écoute.
Comme moi, d'ailleurs. Je l'ai compris là-dessus.
60% des points accumulés dans la saison par Pacioretty était la première passe venait de Radulov. 60%.
Est-ce qu'on est surpris quand tu regardes la fiche de Radulov en 6 matchs en série, 4 buts, 2 passes, plus 7, avec la passe sur le but gagnant de Klingberg?
Que lui, c'est un joueur, on sait une chose, c'est plus un passeur qu'un marqueur.
Oui.
Il marque plus de buts maintenant parce que c'est difficile d'aller en avant du filet. Il est fort comme un bœuf, il va devant le filet, il est combatif.
Il compétitionne.
Et il compétitionne. Alors, il y a des défauts, il n'est pas parfait. Il y a un agent mal commode. Il y a tout ça, mais c'est un joueur qui actuellement te fait réfléchir sur la suite des choses. Comment tu veux bâtir tes équipes? Tu parlais tantôt là, des plus gros joueurs. Là. Lui, c'est pas un patineur extraordinaire. Lui, là, à part sa combativité extrême, mm-hmm. puis son sens du jeu, parce que c'est un gars qui a quand même un assez bon sens du jeu. C'est tout, là. C'est un gros joueur, il a une combativité extrême, un assez bon sens du jeu, puis c'est ça, c'est avec ça qu'il joue.
Et c'est pas un atout banal, Danny, si on réfère à ce que tu disais dans la première partie de notre conversation. C'est exactement sur ce sur quoi tu insistais.
Oui, exactement. Puis, tu sais, je regarde l'alignement. J'ai l'alignement ce soir de Toronto.
Oui.
Et j'ai l'alignement...
Un Kadri, ouais, on n'est pas revenu.
Oui, c'est ça. J'ai l'alignement des Leafs de Toronto. Lorsqu'ils ont joué contre le Canadien, mais... Pas le dernier match de l'année. Là où les Leafs ont gagné 4-3, là.
OK.
Et là, l'alignement, t'avais Kadri qui était le pivot du troisième trio, là,
oui.
En compagnie de Brown et Marleau, je pense.
Hey, on faisait juste perdre Byron, ça débalançait nos trios ici à Montréal. Imagine perdre Kadri, c'est sûr que c'est pas sans conséquence.
Moi, je pense que ce soir, ça va avoir un impact parce que, écoute, tu joues Nylander à la position de centre. C'est lui qui était à l'aile aux côtés de Austin Matthews. Puis Kapanen jouait sur le troisième trio, si je m'abuse. Là. Mais là, écoute, ça change la donne complètement. Là. T'as moins d'équilibre. T'as moins d'attaque parce que Nylander, tu dois le faire jouer au centre. Fait que tu lui enlèves un petit peu de latitude. Ça, c'est pas rien. Là. Ça change vraiment la dynamique au niveau du... de l'utilisation de tes joueurs dans un match numéro 7. Puis tu sais que Gardiner, là, l'année passée, le match numéro 7 est terminé avec une fiche de différentiel de moins 5.
Je suis sûr qu'il y a quelqu'un pour lui rappeler d'ailleurs.
Ben là, tout le monde, c'est sûr que...
Les médias l'ont rappelé, l'ont soumis à grand trait.
S'il voit un petit peu ses réseaux sociaux, il a dû le voir, là, parce qu'on l'a vu nous autres. Que, moi, je savais pas ça, mais là, en fouillant, tu sais, je dis « wow ».
Prédiction, alors, lui, Toronto, là... Boston va l'emporter, donc,
oui,
Danny.
Oui, oui.
Puis l'autre match, Vegas-San Jose.
Malheureusement, je pense que San Jose va l'emporter. Je dis malheureusement, j'aimerais bien voir Vegas gagner, mais ils n'ont pas été assez bons cette année sur la route, Vegas.
Ah, OK. On prend note de ça, Danny, puis on s'en reparle probablement demain, d'ailleurs, à l'aube d'un autre match numéro 7 entre Washington et la Caroline. Bonne soirée, mon cher.
Parfait. Bye-bye, Mario.
Bye-bye. On revient avec Philippe Quentin et David Perron des Blues.